France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 avril. Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Nicolas.
À la une de l'actualité ce matin, week-end pascal sous le signe de la tolérance des déplacements entre régions. 3 jours pour organiser son 3e confinement. Alors, s'isoler au vert ou confier ses enfants aux grands-parents, on voit ça, Laurence, après les autres titres.
Des dîners clandestins haut de gamme dans la capitale au mépris des gestes barrières. Une enquête est ouverte. L'organisateur qui affirmait qu'il y avait rencontré des ministres s'est rétracté. Un passeport Covid pour reprendre une vie normale. Danemark lancera fin mai une application pour permettre l'accès au stade de foot, au restaurant et au musée. Et puis la Marseillaise sur les 2 plus hautes marches du podium du Grand Prix Moto de Doha au Qatar, Fabio Quartararo et Johan Zarco, les 2 nouveaux héros de la moto française.
Et les invités d'Inter ce matin avec vous, Léa, à 7h50.
Il publie Art Media, une histoire du cinéma français, l'histoire de celle qui fut la plus grande agence artistique d'Europe, qui inspira la série 10% et de ses patrons et agents, des personnages romanesques et tragiques. Le plus célèbre d'entre eux, de ces agents, c'est Dominique Besnard,
oui,
qui est l'auteur de ce livre et qui vient nous raconter tout ça à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, on va se retrouver pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, avec lequel vous pourrez évidemment dialoguer. Le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Un premier week-end de reconfinement sous le signe de la tolérance. Tolérance pour s'organiser, pas pour partir en week-end prolongé. Car depuis samedi soir, la France est repassée sous cloche. Couvre-feu à 19h pour tout le monde, magasins non essentiels fermés et déplacements interdits au-delà de 10 km autour de chez soi. Pourtant, bon nombre de Français ont adapté à leur sauce la règle de tolérance édictée par le gouvernement. Le terme, il faut dire, était trompeur, mais cette souplesse est faite pour poser ses valises 4 semaines au grand air ou laisser les enfants aux grands-parents, pas pour célébrer Pâques en famille. Des contrôles devraient être menés dans la soirée, notamment pour les retours sur la capitale. Léa Dubost a rencontré à Ouistreham, près de Caen, des vacanciers de dernière minute qui pourraient avoir de mauvaises surprises sur le chemin du retour.
Kevin et Léa terminent leur balade à la plage qui n'était encore pas prévue il y a quelques jours.
On va aller ramasser les œufs dans le jardin et puis après on va aller se confiner.
Je travaille en région parisienne et là je suis descendu ce week-end pour profiter un peu de la famille, de Pâques, tout ça, avant le confinement.
Confinement qui a pourtant débuté depuis samedi 19h, mais la tolérance accordée ce week-end en arrange plus d'un, comme Nicolas et Laure, ce couple de Parisiens venus prendre l'air.
On profite de la tolérance et puis on reste uniquement en famille, on sort pas trop.
Surtout que ça fait très longtemps qu'on est quand même enfermés, à voir pas grand monde. Donc là, un peu d'air, ça fait du bien.
Les Canets, eux aussi, profitent de cette tolérance. Julie, Mickaël et leurs enfants ont sorti les trottinettes avant un confinement en famille.
On profite encore des derniers moments où on est libre, entre guillemets.
Un peu angoissant de se dire qu'on va être à nouveau 24 heures sur 24 dans la maison.
C'est pourquoi Magali et Stéphane ont réservé un hôtel à la dernière minute.
On vient de Paris, on est venu passer le week-end. Il y a la mer, le sable, on n'est pas prêt de les revoir, donc on en profite.
On profite de cette tolérance, mais au limite, on ne comprend pas pourquoi, même si on est bien content d'en profiter. Pourquoi cette tolérance? C'est bizarre.
Mais pour l'attestation, alors?
Il a dit qu'il nous laissait tranquille jusqu'à lundi soir, donc j'en ai pas. Bah on verra bien.
Encore un peu de confusion. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour ne pas se faire arrêter au retour.
Léa Dubost. De la tolérance, il n'y en aura pas, a promis le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une enquête est ouverte après le reportage d'M6 sur des dîners parisiens clandestins. La chaîne a diffusé vendredi en caméra cachée un lieu présenté comme un restaurant illégal dans les beaux quartiers de la capitale où des dizaines de convives se font la bise, se retrouvent sans masque pour partager un repas. Gérald Darmanin veut vérifier tout d'abord l'exactitude des faits.
J'ai demandé immédiatement au préfet de police de Paris d'enquêter sur les faits qui sont annoncés dans ce reportage. Soit ils sont faux et il ne faut pas jeter l'opprobre, évidemment, soit ils sont vrais et évidemment, sur le travail que pourra faire les services de police, les personnes doivent pouvoir être poursuivies et j'imagine condamnées pour avoir organisé de telles soirées. C'est tout à fait inacceptable. Tous les jours, les services de police et de gendarmerie interviennent. J'oublie pas les polices municipales dans les quartiers parfois populaires parce qu'il y a des barbecues géants, parce que les gens ne respectent pas le confinement. Il est évident que dans les plus beaux quartiers, y compris les plus beaux quartiers de la capitale, la règle est la même pour tout le monde. Il apparaîtrait que ce serait un lieu privé qui ne serait pas un restaurant. Mais il est évident que nous devons adopter des règles fermes pour ceux qui, en plus, se jouent des règles publiquement et revendiquent quelque part cette désobéissance qui n'a rien de civil.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Alors, deux poids, deux mesures. Pour le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, les inégalités sociales apparaissent à vif dans cette histoire. On pénalise, dit-il en substance, les milieux populaires qui se retrouvent dans les parcs et on fermerait les yeux sur ceux qui peuvent se payer un repas à 160 euros en toute illégalité. Le député insoumis espère que les choses vont changer avec ce reportage.
On est confiné dans nos inégalités. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de buzz et du bruit autour de cette histoire parce que 50 personnes aisées se réunissent, c'est scandaleux. Et si un ministre en particulier y a participé, il doit démissionner séance tenante parce que c'est symboliquement inacceptable. Mais symboliquement, dans une période où on est tous extrêmement demandés à faire des efforts, il va de soi que ce serait une déflagration politique si c'était le cas. Mais vous savez, les inégalités sociales, elles apparaissent à vif dans cette histoire. Mais monsieur le ministre, quelque part, l'a un peu dit. On verra les actes. C'est que on va pénaliser les milieux populaires qui essaient dans des parcs parfois de se retrouver. Et manifestement, pour l'instant, il y a une complaisance. Alors depuis qu'il y a un reportage télé, ça a peut-être changé.
Alexis Corbière, le député insoumis. L'un des organisateurs interviewés par M6 affirmait avoir dîné dans la semaine dans deux ou trois restaurants, soi-disant des restaurants clandestins, avec un certain nombre de ministres. Mais l'homme s'est rétracté depuis et dit avoir plaisanté. Eux, ils accompagnent nos vies de confinés depuis un an pour une bouchée de pain. Ce sont les livreurs des plateformes Deliveroo et Uber Eats. La coupe est pleine. Hier soir à Rennes, il était impossible de se commander à manger. Une quarantaine de livreurs ont manifesté vers 20h dans le centre-ville. Ils dénoncent la baisse de leur rémunération, les contraintes liées à leur statut d'auto-entrepreneur. Ce livreur gagne moins de 200 euros par semaine, une précarité très compliquée à vivre, comme il l'explique à Maxime Glorieux de France Bleu Armorique.
Aujourd'hui, on a énormément de mal à joindre les deux bouts, parce que on est assassiné par Uber. Il y a encore 48 heures, ils m'ont proposé une course à 0,95€. La baisse des tarifs, elle est significative. Il y a encore un mois, on pouvait avoir des bonus pour 11 courses à 35€. Là, ne serait-ce qu'aujourd'hui, le bonus pour 11 courses, il est à 11€. Si on soustrait les 22% qu'on a à payer en plus pour l'URSSAF, à la fin du mois, il nous reste énormément moins que le SMIC. C'est absolument pas une vie. On ferme tous les plateformes, mais c'est un mal pour un bien, parce qu'en soi, on perd de l'argent ce soir en bloquant. Néanmoins, c'est pour améliorer notre quotidien pour demain.
Ce livreur auprès de Maxime Glorieux de France Bleu Armorique. C'est aujourd'hui que le Premier ministre britannique dévoilera les nouvelles règles pour les déplacements internationaux et notamment un projet de passeport sanitaire pour permettre la reprise d'activités comme les matchs de foot et les événements en salle. La Commission européenne travaille elle aussi sur un pass du même type pour espérer reprendre une vie normale et prouver que l'on n'est pas malade. Mais le Danemark a décidé d'aller plus loin avec un passeport Covid qui sera lancé fin mai. Il devrait être disponible sur une application pour smartphone et dévoilera l'état de santé des Danois. Vaccinés, testés négatifs ou déjà contaminés, le feu sera alors au vert pour aller au restaurant, au musée ou au concert. Julie Pietri.
Au Danemark, le port du masque à l'extérieur n'est pas obligatoire, mais il y a tout de même ces sens de circulation pour piétons dans certaines artères du centre-ville de Copenhague et les restaurants, cinémas, musées qui restent fermés. Thomas Bustrup attend le Corona Pass avec impatience. Yeah. Il est le patron de la chambre d'industrie du Danemark qui représente 18 000 commerces et entreprises.
Ça va créer beaucoup de mobilité. Si vous voulez assister à un match de foot, par exemple, quand vous devez faire rentrer 60 000 personnes en une heure, vous avez besoin d'un système très rapide, avec une appli sur votre téléphone, pour qu'une machine en quelques secondes dise « vert, vert, vert ».
Green, green, green. Au Danemark, ce projet est contesté dans la rue par le mouvement des Men in Black, les hommes en noir, qui craignent d'être, via ce pass, surveillés et forcés de devoir se faire tester ou vacciner. Pour Lars Rammen-Nielsen, directeur du tourisme à la Chambre du commerce danoise, il faut surtout des limites à l'utilisation de ce Corona Pass. Oui, pour les voyages, matchs ou festivals, mais pas pour les cafés et restaurants.
Ça va limiter le nombre de clients qui auront le droit d'aller au restaurant et au café. Et les professionnels devront aussi les contrôler. On ne pense pas que ce soit juste.
Ce passeport Covid aura en tout cas une fin, il l'espère, et le plus rapidement possible.
Julie Pietri.
Il est 7h09, en pleine crise sanitaire, Laurence. Les syndicats ne comptent pas laisser passer la réforme de l'assurance chômage sans réagir.
Le décret a été publié fin mars pour une entrée en vigueur le 1er juillet. Mais cela fait des semaines maintenant qu'ils préparent la riposte et fourbissent leurs armes pour agir. Les 5 organisations syndicales entrent dans le dur et réfléchissent à la manière de déposer un recours devant le Conseil d'État.
L'analyse du décret est faite. Les angles d'attaque trouvés pour la CGT, Denis Gravouille est chargé des questions d'emploi.
Non seulement ce décret est une aberration politique, mais c'est une aberration juridique. parce que ça a été fait n'importe comment. On a vraiment des situations très proches qui vont donner des allocations très différentes.
Les périodes de maternité posent notamment question. Ces jours de congé sont neutralisés dans le calcul. Les périodes non travaillées prennent donc plus de poids et font baisser l'allocation.
Le risque de discrimination sur le congé maternité, l'UNEDIC l'a signalé au ministère du Travail. Ils n'en ont pas tenu compte.
Intenable, injuste, les syndicats ne manquent pas d'adjectifs pour qualifier les nouvelles mesures, d'autant qu'elles reposent sur l'idée que le chômage serait volontaire, juge et dénonce la CFE-CGC par la voix de son président, François Omeril.
C'est d'ailleurs l'esprit de la loi de considérer qu'un chômeur, suivant qu'il soit plus ou moins bien indemnisé, il n'est pas suffisamment motivé pour rechercher un emploi et retrouver du travail. Et c'est ça qui est absolument scandaleux, parce que c'est faux et c'est de l'ordre de la punition collective.
Reste à étudier la manière de riposter. Les syndicats, malgré leur opposition commune au texte, ont des stratégies différentes. Ils formaliseront leurs décisions ensemble ou séparément dans les jours qui viennent.
Cinq femmes toujours en garde à vue, interpellées dans la nuit de samedi à dimanche à Béziers. L'une d'entre elles est soupçonnée d'avoir voulu commettre un attentat. Toutes appartiennent à la même famille, Jean-Philippe Degnaud.
La jeune femme n'était pas fichée. Elle était inconnue des services de police ou de justice, mais c'est la surveillance des réseaux sociaux qui ont alerté la sécurité intérieure. Des consultations de sites de l'État islamique, des échanges plus précis et l'approche du week-end de Pâques ont convaincu les enquêteurs qu'il était temps d'agir. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont donc procédé à son interpellation et ont également arrêté la famille présente dans l'appartement, sa mère et ses trois sœurs, dont une est mineure, sans que l'on puisse déterminer encore si l'une ou l'autre était impliquée dans les projets de la suspecte. Dans la perquisition, les enquêteurs ont saisi des produits entrant dans la composition d'explosifs et du petit matériel pour la préparation d'engins artisanaux. Ils ont également récupéré un ordinateur ainsi que de la documentation de l'État islamique que la jeune femme avait imprimée. Selon une source judiciaire, rien ne permet pour l'instant d'affirmer qu'elle avait une cible précise pour un éventuel passage à l'acte.
Jean-Philippe Degnaud, on n'avait pas vu cela depuis 1954. Deux pilotes français, Fabio Quartararo sur Yamaha et Johan Zarco sur Ducati, remportent respectivement les premières et deuxièmes places du Grand Prix Moto de Doha au Qatar. Deuxième course de la saison, Zarco prend la tête du championnat du monde. Retour sur cette course d'anthologie avec Guillaume Battin.
En moto, ce sont les hymnes espagnols et italiens qui sont les tubes des podiums. Mais depuis quelques saisons, la Marseillaise tente de faire sa place dans la playlist. Hier à Doha, à l'issue d'une course complètement folle que seule la moto est capable d'offrir, Fabio Quartararo et Johan Zarco sont entrés dans l'histoire. Jamais deux pilotes français n'avaient occupé les deux premières places et il faut remonter à 1954 pour en voir deux aux secondes et troisièmes places. Sébastien Poirier est le président de la Fédération Française de Moto.
Deux très beaux pilotes qui sont dans de très beaux teams. On a un Johan qui aujourd'hui est en tête du championnat du monde de MotoGP, ce qui est évidemment exceptionnel, même si on est au tout début de la saison. Et donc c'est vrai qu'on est sur une période là où on peut espérer sereinement voir peut-être un Français champion du monde en fin d'année, parce que les performances qu'ils ont réussi à produire sur ces deux derniers week-ends, on peut parfaitement imaginer qu'ils le produisent tout au long de la saison.
En une semaine et deux grands prix à Doha au Qatar, Zarco et Quartararo ont converti quelques milliers de Français à la moto.
Guillaume Battin.
Merci Laurence Thomas. Dans trois minutes, c'est le zoom. Aujourd'hui sur la piste des chiens français renifleurs de Covid.